Marin absent, lu par Guilhem Lanternier. Extrait de Les Présents d'Antonin Crène, édité chez Publi.net, collection Temps Réel. Épisode 2. Théo arrive au village, attiré par l'intuition que quelque chose ici le concerne. Sur la plage, il reconnaît le décor d'une photo de son père à 20 ans. Le cœur n'est pas au milieu exact.
Avant, il y avait l'hôtel des bains, à Calbrot. Il est fermé, puis, oh, je saurais pas le dire. Tu restes ici tant que tu veux. Prends ce que tu voudras, ce que tu pourras. T'as pas l'air riche, prends pas mal, et venant de moi, c'est quasi un compliment. Y'a pas de raison, tu vas me dire. Il en existe seulement des biens. Mais je suis comme ça, j'ai mes idées. C'était un hôtel ici, y'aurait moins un prix, mais c'est juste un café avec une chambre au-dessus. Et puis, une épicerie, bon, je dis pas le contraire. C'est pour le dépanner. On a qu'à décider que ça se passe comme ça. Les sous que tu me dois pour ton petit déjeuner, tu me les donnes pour la chambre. Et le petit déjeuner, je te l'offre. Ça vient au même, tu vas penser, mais c'est pas pareil du tout, c'est pour me faire plaisir. Tu t'installes ici aussi longtemps que tu le faut. Je prends pas de risque. Je me doute bien que tu n'as pas fait de vieux os. N'est-ce pas ce qui se passe avec tout le monde? Je te demande pas ce que tu fabriques ici d'ailleurs. Je parie que tu sais pas toi-même. Tu trouves en cherchant, logique.
Logique, répète Théo. Ce n'est pas un mot que j'utilise souvent, merci de me l'avoir donné. Je le prends.
T'es pas là pour les vacances. Alors, pas de regrets. Rapport à l'hôtel des bains. Les vacances, fallait les passer ici au XXe siècle. Ça avait plus de gueule. Et encore, pas trop tard. Tu vois Carbrot, la plage.
J'ai vu la plage, oui.
Bon, la maison qui fait face à l'eau. La grosse avec les fenêtres arrondies. Pour revenir plus tôt, c'était l'hôtel des bains. Avec l'ancienne qui va bien, les lettres pentes à la main. Ce que logeait là, c'était les maillots à bretelles, les rayures et tout. La belle époque. Les gens en chapeau. Et puis après, les congés payés, les vélos, la casquette, tout ça. C'est l'autre, tiens.
La pose du limonadier. Tout le corps tendu vers le geste du doigt pointé, désignant un pan de mur à angle droit au-dessus du comptoir. Et un sourire du bout des lèvres. Mais pas en coin, franc. Une image en noir et blanc punaisée parmi d'autres, la plupart en couleur. Et en 1980, il existait encore l'hôtel des bains?
Ça m'étonnerait. Et t'es transformé depuis belle lurette en la maison que t'as vue.
Théo connaissait déjà la réponse, puisque sur la photo de son père, la façade est rigoureusement la même que sur la plage où il l'a découverte hier. Il a posé la question juste pour causer, parce que le gars est drôlement sympathique. Théo est content d'être tombé sur lui. À cause de la chambre, bien sûr, c'est une aubaine d'avoir trouvé ce café hier soir, d'avoir passé la nuit ici. Mais aussi pour la conversation qui roule toute seule.
Si tu couchais à l'hôtel des bains, mettons, parce que ce serait les années 30 ou 40, eh ben... Tu serais venu au village en suivant exactement le même tracé. Mais pas à pied, en train. Cette petite ligne n'a fonctionné qu'entre les années 1907 et 1946. Si elle était un être humain, on aurait dit qu'elle était morte tôt ou fauchée en pleine jeunesse. Elle relierait Poescata à Saint-Paul-de-Léon via Caridel, Credel, Sibérie et le village.
Théo ne sait pas ses détails, ses noms et ses dates. Il n'a pas entrepris ses recherches préalables. Il est parti à l'aventure.
Un tol tchol, te le cache pas. Un train de marchandises qui trimballait les légumes de l'arrière-pays jusqu'à la ville. Et puis, et c'est pas rien non plus, un genre de train pendulaire. Les paysans allaient se voiturer comme ça, faire le marché au patelin d'à côté, aller le tour. Pour ces deux raisons, on surnommait cette ligne « train patate ».
Là, un large sourire, et alors les grandes fossettes de chaque côté. Bizarre cette manie de l'histoire chez ce jeune homme. Cette inclination pour les faits exacts. Pour la précision spatiale et temporelle. Voilà donc son rôle dans la vie de Théo. Dessiner le décor autour de lui, l'ancrer solidement dans le monde réel. Et sur cette trame, si Théo veut broder, libre à lui. Pour l'heure, il quitte son bistrot refuge. Il vague dans les rues du bourg. L'opération ne devrait pas l'occuper des heures, car il n'y a pas 36 rues à visiter, mais il passe plusieurs fois dans chacune pour les connaître à fond. L'axe essentiel est celui sur lequel il réside, qui porte successivement les noms de Kerbrat, Pratkulm et de la mairie. Cette artère irrigue le village, elle innerve son muscle, Elle constitue sa colonne vertébrale. C'est ainsi que je la vois, oui, bien que ces trois comparaisons soient incompatibles. Sur le schéma anatomique, un tracé unique ne peut pas représenter un vaisseau sanguin, un nerf et un os simultanément. Mais j'insiste sur ces mots tout de même pour dire à quel point l'ensemble du village est organisé autour de cette ligne de vie. Les autres rues sont seulement des ruelles ou des chemins périphériques, plantés sur le moyeu central comme des côtes flottantes, s'échappant dans la campagne comme des capillaires, s'évanouissant comme de minuscules terminaisons. Cet axe essentiel est légèrement décentré, évidemment, puisque le village a la forme d'un cœur et que le cœur n'est pas situé au milieu exact de la cage thoracique. Sur le ventricule gauche, un hameau s'appelle Kerwilek. À droite, un autre est identifié comme Kerlouik. Quelle langue inattendue! Elle teinte comme un dialecte qu'on aurait inventé pour rire. Est-ce que les aïeux de Théo la pratiquaient? Rue de la mairie, on trouve l'église. Si on veut y entrer, on passe par l'autre côté. Une petite rue plus étroite s'élève doucement depuis le chevet néo-gothique, puis contourne l'édifice jusqu'à atteindre son portail. On peut ainsi prendre l'escalier qui mène au cimetière, ce dernier surplombant la rue de la mairie comme une terrasse. On marche alors entre les pierres et les monuments, et on tombe, oui, on tombe, à la fin, sur la porte de l'église. Il ne serait pas étonnant qu'un ancêtre de Théo, voire plusieurs, eût été baptisé là-dedans. L'usage était répandu dans le temps, de sacrer les bébés, les mariés, les défunts. Les gens se rassemblaient dans les églises, ceux qui y croyaient et ceux qui n'y croyaient pas. Il n'est pas encore midi quand Théo arrive à la mairie. Alors il pousse la porte. Elle est ouverte. Il explique à la dame que son grand-père est plausiblement né ici, mais qu'il n'en est pas sûr. Sa grand-mère aussi, peut-être, mais il en est moins sûr encore. L'incertitude sera levée facilement, lui répond la dame, car les registres ne se trompent jamais. Elle lui donne un papier pour noter les noms de ses aïeux et, s'il les connaît, leur date de naissance, à peu près. S'il ne les sait pas par cœur, c'est pas grave, car les livres sont moins épais qu'à Paris, où il faudrait une vie pour éplucher les listes de nouveau-nés d'une seule année. Ici, au pire, même s'il faut regarder une à une toutes les pages d'une décennie, on s'en sort. Théo écrit les noms, les années. À un an ou deux, environ. La dame cherchera tout à l'heure, après son déjeuner, car c'est l'heure où elle va fermer. Vous repasserez en début d'après-midi ? Théo se demande à quelle heure débute l'après-midi. Techniquement à midi et une minute, mais en vrai, ce n'est pas à cela que les gens pensent quand ils parlent d'après-midi. Il n'ose pas poser la question. Il se dit que probablement le coup de 14 heures sera considéré comme un horaire correct. 15 heures même, pour ne pas avoir l'air pressé ou insistant. Il s'en voudrait de froisser cette dame qu'il trouve très gentille. Il lui dit merci, à tout à l'heure. Il sort de la mairie. Elle ferme la porte derrière lui en tournant le verrou. Le temps est bon. Théo a envie de revoir la plage, ainsi que la maison de la plage qui fut un hôtel. Avant de quitter le café, ce matin, il a acheté de quoi se faire un pique-nique. Il s'assoit sur la plage, tourné vers la maison. N'est-ce pas un pittoresque inattendu, ce pique-niqueur sur la plage qui ne regarde pas la mer ? Théo essaye de se rappeler la tenue que son père portait à 20 ans, sur la photo rangée dans la valise. La valise qui est dans la penderie de sa mère. Il porte un pull marin, rayé horizontalement et boutonné sur l'épaule. Non, il ne porte pas de pull marin, ce serait trop cliché. Il porte une veste en jean. Il porte un blouson. Théo ne sait plus comment il était habillé. Il porte les cheveux longs de ses 20 ans. Oui, cela c'est certain. Théo ne l'a jamais vu avec les cheveux longs, car entre la date où il est né, lui, et celle où son père est mort, c'est-à-dire pendant les 9 ans où leurs vies ont coïncidé, les cheveux de son père étaient courts. Disons qu'ils n'étaient plus aussi longs qu'avant. Ce Théo, par contre, était plus long qu'aujourd'hui, et dans les toutes premières années, ils étaient blonds et bouclés. Le phénomène est fréquent chez les enfants, ensuite ils changent de couleur et deviennent lisses. Ceux du père étaient bruns, mais ils sont restés bouclés comme l'enfance, jusqu'à la fin. Ils n'ont jamais été blancs. Quelques-uns avaient blanchi déjà, mais trop peu nombreux pour modifier ce sentiment unanime qu'il inspirait. Il était un homme jeune. Théo lui-même, qui est pourtant ce que les gens appellent un jeune homme, sans aucun doute possible, s'est déjà trouvé des cheveux blancs. Non, il ne parvient pas à se rappeler comment son père était habillé sur cette image.
mais cela a peu d'importance. Il conserve très précisément dans sa tête le visage, la ligne de contour de ce visage, les yeux qui regardent le photographe qui le regarde, lui, à travers la surface du papier. Le père a 20 ans. Il est plus jeune que Théo qui en a déjà 28. Un jour, Théo sera plus vieux que son père ne l'aura jamais été. Il dépassera les 37 ans. Sauf s'il meurt, lui aussi, entre-temps. Mais la chose est peu probable. Les statistiques disent que les accidents sont rares et rien dans la vie de Théo, pour l'instant, ne l'inciterait à précipiter l'événement. Il se sent bien sur la plage. Il mange son pain, son fromage. Il a choisi une spécialité à pâte dure, originaire du Cantal, très pratique pour les sandwichs. Quand il a bien observé la façade de la maison, feu l'hôtel des bains, il se retourne vers la mer. Les fesses dans le sable, il s'intéresse maintenant à l'estuaire de l'Orne et au mouvement de l'eau qui se mélange à l'eau, et à leur clapotis contre les deux berges à la fois. Contre la sienne, les vagues viennent s'étaler doucement. Contre celle d'en face, hérissée de roches bleues, elles se brisent en silence. Il est possible qu'elles produisent un son en réalité, mais celui-ci n'arrive pas aux oreilles de Théo, tout empli du bruit du suroît qui souffle en sens inverse. Le vent porte son propre chant, un sifflement grave, et quelquefois celui d'un volatile, un goéland, plus rarement une mouette, et couvre le bruit des vagues contre la rive opposée. Un autre vent soufflait 20 ans plus tôt, sur une autre plage. La tramontane est redoutable. Elle vous poursuit jusque dans les cachettes où vous croyez être protégé du monde, car la tramontane, ça veut dire la trappe-montagne, et peu de gens le savent. Vous êtes réfugié en haut d'un sommet, vous êtes un bouquetin, farouche comme tout, vous croyez que personne ne peut vous saisir par la peau du cou, vous négligez seulement la trappe-montagne qui ne fait de vous qu'une bouchée. Elle vous pousse dans le dos quand vous vous approchez du bord. Vous étiez à pic, car vous n'avez pas le vertige. Et bim, vous chutez. Dans les oreilles de Théo, aujourd'hui, le vent. Devant ses yeux, la plage, l'estuaire de l'Orne, les dunes de Santec coiffées de pins. Derrière ses yeux, le visage juvénile du père. Dans son dos, la grosse maison qui n'est plus un hôtel depuis longtemps. Théo a mangé son dessert, deux pommes. Il se lève, tape sur ses fesses pour faire tomber le sable. Une pincée sera restée au fond de chaque poche, c'est inévitable, et retourne au village. Il croise le limonadier dans le bourg. D'abord, il peine à le reconnaître. C'est comme lorsqu'on tombe, par surprise, disons, sur son ancien professeur de mathématiques du lycée, sorti de son contexte. Par exemple, à la piscine avec un slip rouge et un bonnet en plastique. Il faut le rhabiller par la pensée, lui poser ses lunettes sur le nez, lui barbouiller de la craie sur les mains et le replacer dans le décor. Et voilà, on le remet. Là, il se produit la même chose dans le bourg. Théo rencontre un jeune homme, chaloupé, portant casquette, ressemblant un peu à l'insurgé du faubourg. Ce garçon debout derrière la barricade, trouvé sur le boulevard de Ménilmontant. Ce n'est toutefois pas lui, c'est l'autre, le limonadier, le tenancier de l'épicerie. Il le reconnaît.
Si t'as besoin, tu sais comment ça marche. Le clé sous le pot de fleurs, dans le coupé lentille qui te trop plein d'eau, tu vois? Parce que je te cache pas qu'il pleut parfois chez nous, mais d'autres fois c'est mon carrosse quand même. La clé rouille pas, fais comme chez toi.
Théo explique à son hôte qu'il se rend à la mairie pour certains détails administratifs concernant son grand-père et peut-être sa grand-mère.
Tu aurais trouvé les mêmes renseignements à distance en restant chez toi. Mais je comprends. Rapport au voyage initiatique, ça vaut le coup de parcourir le paysage soi-même, comme un grand. C'est autre chose que de cliquer sur son écran.
Je n'y avais pas pensé. J'avais envie de prendre le train.
T'as pigé pour la clé? Je sais pas à quelle heure je rentre. Une visite à faire.
Un sourire, deux sourires, allez, ciao, bonne chance, à plus. Le gars prend le chemin de terre qui mène à Kerlouik. Théo descend la rue de la mairie, mais il est sûrement trop tôt. Il ne sait pas quelle heure il est, alors il passe voir l'église parce qu'il y a toujours une horloge sur les clochers. 2 heures et quelques. Il grimpe les 8 marches. Il va visiter le cimetière, ça l'occupera. Des gens sont morts et on les a enterrés ici, mais Théo ne pense pas à eux. Il lit les noms et les dates, les prières et les épitaphes. La lecture est plus amusante quand elle s'apparente à du déchiffrage, à cause de la mousse et des lichens recouvrant les lettres gravées. Théo ne peut pas les gratter lui-même, ce serait déplacé, chacun sa tombe. Et puis ça a son charme, la pierre usée par la pluie, mangée par les végétaux minuscules et les champignons qui prospèrent. Il paraît que le lichen est un organisme hybride, une association de 2 êtres appartenant à des règnes différents. Un végétal, cette teinte verdâtre, c'est la chlorophylle, et un champignon,
qui n'est ni un végétal ni un animal, mais un truc à part. Leur symbiose dessine ses fleurs pâles sur les tombes, solidement incrustées dans le granit. C'est joli. Au sol, des herbes intempestives poussent entre les graviers du chemin pour faire de l'ombre aux insectes. Les hommes, eux, ne profitent pas de tels parasols. Aucun arbre dans les allées. Mais le soleil est doux. Théo ne se plaint pas. Dong, dong, dong. C'est le clocher, 3 heures. Voilà, la dame de la mairie ne pensera pas qu'il arrive en avance. Je n'ai pas trouvé votre mamie dans les registres. Elle n'est pas née ici. Vous essayerez les villages d'à côté, n'est-ce pas? Votre papy, je l'ai. Il était dans le volume de 1936 avec la reliure rouge. C'est l'année que vous m'aviez dit, c'était facile. Je vous ai fait une photocopie. Merci, madame. La fenêtre du café a de profonds appuis en granit, polis par les pluies, exactement le même style que les tombes tout à l'heure. Il y aurait assez de place pour y aligner plusieurs bacs ou jardinières. On n'y a placé toutefois qu'un pot unique, pas gros. Théo l'incline de manière à glisser 2 doigts en dessous. Il saisit la clé et ouvre la porte. Sa main, il l'essuie sur son pantalon, derrière les cuisses, à l'endroit où il reste sûrement encore du sable attrapé sur la plage et de la poussière prise sur le parapet du viaduc. Il se pose sur une chaise qui en a vu d'autres. Il lit. L'an 1936, le 16 septembre à 7 heures du matin, a comparu F. Jean, Marie, François, employé des chemins de fer de l'État, oncle de l'enfant, âgé de 42 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né hier à 5 heures du soir, au domicile de ses pères et mères, de L, Yves, Jean, Marin absent, âgé de 30 ans, et de F, Marie, Anne, son épouse, ménagère, âgé de 26 ans, tous deux domiciliés au lieu dit Kerlouic, auquel on a donné le prénom de Jean. François, Yves. Nom et qualité des témoins, le grand-père cultivateur, un garde champêtre. Signature, paraphe élégante du maire. Théo relit le papier. Il se dit que cet été-là, l'été de cette naissance, le cheminot a profité de 2 semaines de vacances pour la première fois de sa vie, parce que c'était 36. Le cultivateur, par contre, pas sûr que quoi que ce soit ait changé pour lui, de ce point de vue. Et le garde champêtre? Il a dû voir des touristes s'aventurer dans la forêt de Santec, en face de la plage, des gens de la ville qui avaient loué une chambre à l'hôtel des Bains. Ça devait être gai, l'année où est né le grand-père. Théo lit à nouveau le papier. Marin absent. Il ne sait pas ce que cela signifie. Alors que croyez-vous qu'il fait ? C'était Marin absent, lu par Guilhem Lanternier. Extrait de Les Présents d'Antonin Crène, édité chez Publinet, collection Temps Réel. Marin absent est disponible en podcast sur le site de Radio Campus, à la page du Marin absent. Production La Compagnie Ensemble, sous la direction artistique de Coralie Tommy. Réalisation Élodie Hervier. Enregistrement Radio Campus Paris. Suite du feuilleton, demain, même lieu, même heure. La Compagnie Ensemble sera présente au Festival d'Avignon, du 2 au 7 juillet, à 18h40, dans la cour du Théâtre du Roi René. Elle présentera la pièce de conte Cosmogonie du Monde, tout public, à partir de 6 ans.